De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous aujourd'hui pour cette seconde partie d'émission, Gilles Pelletier, qui a connu une carrière extraordinaire et qui a eu le plaisir aussi de jouer à l'occasion avec sa sœur. Je mentionnais au tout début de la présentation de cette émission vos distinctions, entre autres officier de l'Ordre du Canada, l'Ordre national du Québec, mais s'il y a une distinction qui vous est probablement très cher, c'est celle d'avoir un jour remporté le prix Denise Pelletier?
Oui. Oui, quoique, vous savez, Denise, pour moi, c'est beaucoup plus que ça et tout à fait autre chose que ça. Et je ne peux pas m'empêcher, quand on parle de distinction, de me rappeler le mot de Churchill. Winston Churchill, qui disait « des décorations et des ordres et de tout ça, faut jamais les demander, faut jamais les refuser, faut jamais les porter. » Non, je veux dire, c'est des choses qui arrivent quand on a de longues carrières. Mais il n'y a pas de quoi en tirer de la vanité, je crois pas. Mais sans reconnaît... Oui. Qu'on a été là. C'est tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été là, qui n'ont pas... Parce que vous savez, ces fois-là, il faut être présenté par quelqu'un. Alors, il est sûr que si, Yvette Brin-Lamour, Antonine Maillet, qui sont de l'Ordre du Canada, proposent Gilles Pelletier, c'est la même chose pour l'Ordre du Québec, même chose pour le prix Victor Morin de la Société Saint-Jean-Baptiste, ceux qu'ils proposent, ben, tu sais, on dit, oui, ça va de soi. J'ai été membre de jury et je sais comment ça se passe. Ça ne se passe jamais au début d'une carrière. Ça se passe toujours, ça. Ça vient nous rappeler qu'on est âgé.
Mais vous êtes peut-être au milieu de votre carrière.
Oh, mon Dieu!
Il n'en demeure pas moins que Denise et vous avez apporté une contribution au pays, au plan de la culture, qui est, disons-le, gigantesque.
C'est-à-dire qu'au point de vue aussi... Une certaine rigueur dans le métier. La chance, le hasard a voulu qu'on joue, qu'on nous confie des rôles marquants du très grand répertoire. Je pense, Denise, à son interprétation de Brecht.
Bertolt Brecht.
La charrette, là. Mercourage.
Mercourage.
Qui est une très grande interprétation. Je pense aux Troyennes d'Euripide. Je pense à... Le roi Smeur, d'Ionesco. C'est merveilleux.
Et même ce rôle à la télévision dont les gens ont gardé un souvenir inoubliable.
Cécile Plouffe. Oui, oui. Et Cécile Plouffe, maintenant... Les ploufs ont duré tellement longtemps. Et Denise, jouant sans transformation physique, jouant une personne de son âge, les gens dans la rue l'appelaient Cécile et non Denise Pelletier. Ils étaient très familiers avec elle parce que c'était leur Cécile Plouf.
Et c'était la magie de la puissance de la télévision naissante.
Tout ça, et c'est la rançon de tout ça. Au même moment, moi, en même temps, aussi populaire, je jouais le grand-père dans Cap aux sorciers, qui était un homme d'une race, d'une distinction, d'une hauteur, qui faisait que j'avais 27 ans, puis les gens disaient « Monsieur Pelletier », parce qu'il m'identifiait à un personnage... qui avait une espèce d'aura et de...
Et c'était une période effervescente, même au plan de la chanson.
C'est parce qu'aussi, sur scène, Denise souffrait beaucoup de pendant les quelques premières minutes des spectacles dans lesquels elle jouait. Elle m'a dit, regarde, c'est Cécile Plouffe, c'est Cécile Plouffe, c'est Cécile Plouffe. Avant de faire oublier Cécile, ça lui prenait un bout de temps. Tandis que moi, étant toujours en transformé, j'étais accepté d'emblée. Donc, Denise, il y a... En même temps que le plaisir qu'elle a eu de jouer Cécile Plouffe et la popularité qu'elle y a gagnée, il y a en même temps une espèce d'ombre dans ça. Ça a peut-être duré trop longtemps. 8 ans de popularité dans un rôle. Ce qu'il y a d'extraordinaire de la part de Denise, beaucoup de comédiens, de comédiennes y aurait laissé leur réputation, il serait demeuré ça. Denise a passé par tout ça, puis elle a joué d'autres rôles après.
À cette époque, la chanson aussi était en phase effervescente. Gilles Vigneault, qui a composé « Mon pays », une interprétation majestueuse, celle de Monique Lirac.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie, où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle, à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle, conviendra des autres saisons, pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, j'ai mis mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Monique Lirac, qui a fait aussi du théâtre.
Oui, j'ai joué avec Monique Lirac. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu, que j'ai vu Monique Lirac, elle enregistrait un radio-théâtre. Ça se faisait à la Palestre nationale. Moi, c'était mon deuxième chez moi, un palestre. Et on allait des fois voir les répétitions des émissions radiophoniques qui enregistraient devant public. Et Monique Lirac jouait, je me demande si c'est pas la petite Bernadette Soubirous.
Ah, vraiment?
Je me demande si c'est pas ça. Et je l'avais vu là. Et j'ai connu Monique qui commençait à chanter au Faisan Doré. Mais c'était d'abord une comédienne.
Oui.
Elle jouait dans des Molières dans lesquelles je jouais aussi au Festival de Montréal. Elle jouait dans ça. Je l'ai vue aussi à la télévision et elle a joué des rôles. Non. C'est une comédienne.
Et on la redécouvre aujourd'hui. À cette époque, vous avez mentionné précédemment que René Lévesque a été un ami parce que vous vous êtes côtoyé dans les corridors de Radio-Canada, sans aucun doute.
Avant ça, en 1945, au jour de l'an, nous étions tous les deux reçus chez Pierre Dagenais, avec d'autres personnes. Il y avait une fête du Nouvel An. René venait de laisser l'armée américaine dans laquelle il s'est engagé.
Pour devenir correspondant.
Pour être correspondant de guerre, voilà. Mais préférablement l'armée canadienne, parce que, il disait, c'est contrôlé par l'élément anglais du Canada. Oui. Tout ça.
Et il avait toujours eu une affinité plus républicaine, si j'ose dire.
Oui, puis non, mais à part ça, très grand admirateur du président Roosevelt. Et son père aussi. Et René avait un culte de son père, qui est mort quand il était jeune, mais que cet homme-là, pour lui, c'est un dieu. Et son père est un admirateur de Roosevelt. Alors, les États-Unis, pour lui, c'est un pays plus intéressant. Et moi, voulant naviguer sur toutes les mers du monde à ce moment-là, je me disais, si je m'engage dans la marine canadienne, je risque de passer une partie de la guerre dans des casernes, et d'être embarqué sur des bateaux où il y a seulement des Anglais. Alors, je me suis engagé, par hasard, c'est toute une histoire, dans les forces françaises libres. Force navale française libre, où j'étais avec des Français, et avec cette espèce de promesse que je naviguerais dans le monde entier parce que la France avait des colonies dans toutes les parties du monde.
Alors, naviguons dans une autre époque parce que René Lévesque, tout comme vous, avait probablement apprécié cette adaptation de Léo Ferré, Pauvre rue de bœuf, mais qui a été aussi chantée par un chanteur québécois, Claude Dubois, une longue version.
On va dire grand chanteur, Dubois.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tenus?
Belle chanson et très beau choix que ce pauvre Rudebeuf, M. Pelletier.
Oh mon Dieu, quel homme intéressant ce Dubois, quelle générosité,
Il réussit à vous toucher encore.
Ah oui.
Vous connaissez peut-être cette citation d'un grand comédien français, aujourd'hui disparu, Louis Jouvet.
Il y en a beaucoup.
qui un jour a dit, à partir de 40 ans, tant vaut l'homme... Tant vaut l'acteur.
Peut-être, ouais. Je sais pas,
c'est l'expérience de
vie. Je cherche des exemples. Je ne me place pas, moi, dans ça. Mm-hmm. Mais il y a une autre citation de Jouvet que je trouve extraordinaire. On ne lui reprochait pas, on lui faisait remarquer que dans son théâtre, l'Athénée, il n'avait jamais joué de Racine. Et il avait dit... Racine, il a eu du génie dans le bon goût. C'est très difficile. C'est beau, hein? Du génie dans le bon goût.
Est-ce que ces comédiens d'outre-mer ont pu avoir une influence sur votre jeu à une certaine époque?
Sur le jeu, peut-être pas. Mais attendez, comment je dirais? Il y a un comédien français qui s'appelait Jean de Bucourt, qui jouait des rôles secondaires et que j'admirais beaucoup. Et il avait une sorte de calme, en fait, qui était de la pensée. Et ça me plaisait. Et quand j'ai joué un jour un texte de Guy Dufresne à la radio, Françoise Fauché m'avait dit « Mon Dieu, tu parles comme la voix de Dieu dans Don Camillo. » Et c'était Debucourt qui faisait la voix de Dieu.
Mm-hmm.
C'est peut-être, mais c'était à mon insu. À mon insu, je n'imitais pas.
Mais les influences étaient quand même présentes parce que le cinéma français était peut-être plus abondant que ne l'était la cinématographie canadienne qui était à ses tout débuts.
Elle était dans le temps où j'allais beaucoup au cinéma, elle était pratiquement inexistante.
Voilà.
Alors, il y avait les Français et les Américains. Et mes parents étaient des amateurs de cinéma.
Est-ce que vous aviez un acteur fétiche? Qu'il soit américain ou français.
Il y en avait plusieurs, mais il y avait un acteur français que j'adorais. On me dit qu'il apprenait pas ses rôles, puis il improvisait beaucoup. Il s'appelait Jules Berry.
Jules Berry, qui n'a rien à voir avec Claude Berry.
Non. Si vous avez vu un film qui est un classique, qui s'appelle... Voyons, ça se passe la nuit, Alain Cuny, là-dedans, une espèce de... Enfin, il joue le diable qui est reçu. Et puis, il charme les gens par la parole, les gestes, tout ça. C'était Jules Berry. Ça, je
trouvais ça extraordinaire. Vous avait marqué.
Oui, ben, c'est-à-dire que Jules Berry, il jouait des rôles secondaires très souvent. Et j'allais voir des films pour voir Jules Berry. Et dans les films américains, de fois, quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, un acteur que j'aimais beaucoup, c'était Wallace Beery. Un gros bonhomme énorme. Un caractère
très présent.
Oui.
Une petite pause musicale, en fait, une gourmandise musicale. Bach à nouveau. Non, Mozart.
Ah,
Mozart, c'est quand même un autre univers.
Ah, j'ai joué Salieri.
Oui, c'est vrai, la pièce de Schaeffer, c'est exact.
Ça, oui.
Alors voici la danse allemande numéro 3 en si bémol, Köchel 606, qui a été composée la même année de sa mort, soit en 1791, et c'est le Slovak Sinfonietta, sous la direction de Taras Kryza, qui interprète cette belle danse allemande. Vous avez parlé, M. Pelletier, d'Amadeus.
Oui.
Vous avez joué le rôle de Salieri. Vous n'auriez pas pu jouer le rôle de Mozart.
Non. Et c'est André Robitaille qui était formidable dans le rôle de Mozart.
Diriez-vous...
C'était très, très, très bon.
Et peut-être je ferai insulte à l'auteur, mais il me semble qu'il y a des ressemblances entre ce Salieri de la pièce de Schaeffer et le Xavier Galarno de Victor Lévi-Beaulieu. À tout le moins dans l'aspect de l'homme trouble, l'homme un peu, non pas méchant, mais
l'homme,
probablement troublé.
Le talent face à un génie. Parce que c'est ça le drame de Salieri.
Oui.
Salieri, dans la pièce de Schaeffer, n'a que du talent et il reconnaît le génie de Mozart qui prend une petite pièce que lui a écrite comme ça, vite, composé vite comme ça, et qui en fait un chef-d'œuvre, tout de suite, là, en improvisant. Et ça, ça le brûle. Le vrai Salieri, c'était pas ça. C'est un homme très important. C'est l'homme qui a fait de Vienne la capitale musicale de l'Europe.
Oui. Le prétexte.
Oh, j'ai un mot adorable que j'ai lu au moment où je travaillais Salieri, de Mozart. Vous connaissez les concertos de Mozart piano, qui sont tellement beaux, que l'on admire tellement. Et Mozart n'était pas content de ces concertos-là. Quel reproche vous leur faites? Ils sont merveilleux. Ils manquent de pauvreté.
Quel beau mot.
C'est merveilleux, hein. Ça a été dit.
Quel beau mot.
Il y en a trop. Je laisse aller mon talent le jour, mais j'aurais pu me retenir un peu.
Comme un jour, le prince lui avait reproché d'avoir mis trop de notes dans son opéra.
Ça c'est dans...
dans la pièce.
Dans la pièce, oui.
De Schaeffer. Et pour le marin que vous êtes, « Si les bateaux » chanté par Marie-Claire Seguin.
Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile ou si la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Et la belle aventure n'était que rêve et qu'imposture. Évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures. Par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de
Nous sommes déjà presque rendus au terme de cette première émission avec Gilles Pelletier. Monsieur Pelletier, vous allez peut-être nous faire un grand plaisir, c'est-à-dire de nous revenir la semaine prochaine.
Ah, avec plaisir.
Parce qu'il y a...
Demandez-moi de parler, moi, c'est mon métier.
Il y a tant à raconter. Avant de terminer, si je vous mentionnais un rôle, et j'imagine que c'est un choix difficile, mais s'il y avait un rôle dans toute votre carrière qui vous est apparu comme étant peut-être le plus important, serait-il possible d'en nommer un?
J'en nommerais trois.
Oui.
Et pas nécessairement parce qu'ils ont apporté du succès. Le premier, c'était dans une pièce qui a été un flop. Mais c'est la première fois que j'occupais la scène. Je jouais un premier rôle, j'avais 22 ans, je jouais un homme de 40 ans, et je me suis aperçu que je pouvais occuper la scène du Monument National, moi, puis retenir le Monument National, et de retenir la foule dans ma main. Ça, Ça, je veux dire, c'était un rôle important parce que j'ai découvert que je pouvais, en travaillant, avoir de la présence.
Alors, gardons le suspense. On pourra poursuivre la semaine prochaine sur ces trois rôles et vous inviter à nous préciser quels ont été ces rôles si importants. C'était l'émission Au gré du temps. Avec nous aujourd'hui, Gilles Pelletier, qui sera de retour avec nous la semaine prochaine. Armand Dubois, micro, cette émission qui a été réalisée sous la supervision de Nikolaï Djouchkine. Passez une excellente semaine. Au revoir.